Allah donc se décrit, se donne à être connu de nous dans, en tant que Ar-Rahman, Ar-Rahim, tout rayonnant d'amour, absolu tout rayonnant d'amour, intarissable d'amour. Et dans le Coran, Allah va dire à propos de lui des choses qui peuvent un petit peu nous déconcerter, nous les êtres humains. Puisqu'il va nous dire la chose suivante, Kataba ala nafsihi ar-Rahma. Dans plusieurs endroits du Coran, Allah nous dit que Kataba ala nafsihi ar-Rahma. Et si je traduis littéralement la formule, ça donne Allah s'est prescrit, et c'est lui qui parle, hein, Allah s'est prescrit sur lui-même, ala nafsihi, sur lui-même, ar-Rahma. Il y a une prescription divine de faire acte de rahma de Dieu vis-à-vis de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah s'est prescrit un devoir. Et qui dit devoir, dit de façon obligatoire et nécessaire droit. Parce que la notion de droit et de devoir sont deux notions qui sont indissociables. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'en langue arabe, on a un seul mot pour les dire. En langue française, on a le droit et le devoir. Ce sont deux mots différents. En langue arabe, on a un seul mot, c'est le haqq. Et le pluriel, c'est huquq. Le haqq, ça veut dire et en même temps le droit et en même temps le devoir. Bah oui, parce que ce sont deux choses qui sont indissociables. De la même manière que, par exemple, deux choses qui sont indissociables, la nuit et le jour. On ne peut pas parler de nuit s'il n'y a pas de jour, et on ne peut pas parler de jour s'il n'y a pas de nuit. Donc on a des éléments comme ça que Dieu crée, je dirais, par couple. Conçoit par couple. Donc, droit et devoir. Dans ces différents versets, bien évidemment, il s'agit des devoirs que Allah s'est prescrit à lui-même, qui, par voie de nécessité obligatoire, nous donne des droits, d'une certaine manière, sur lui, eu égard à ce que lui s'est prescrit sur lui-même. C'est très important, parce que ça renvoie à une tradition prophétique qui me revient en tête, là, actuellement, c'est dans laquelle il est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec un de ses compagnons. Et il pose la question, à ton avis, c'est quoi le devoir de l'être humain vis-à-vis de Dieu? Donc, dit autrement, c'est quoi le droit d'Allah sur nous? Donc, le compagnon dit Allah et son prophète sont plus sachants. Et au prophète de dire que le droit d'Allah sur nous, c'est quoi? Que nous l'adorions sans rien lui associer. Donc, l'adoration exclusive de Dieu sans qu'il y ait à côté de Dieu qui que ce soit. Pas même notre ego, attention. Et ensuite, il pose la question, maintenant, d'après toi, quel est le droit des êtres humains sur Dieu? Et là, le compagnon, il est un petit peu bloqué. Nous, on a des droits sur lui. C'est lui l'autorité suprême. Celui qui est l'autorité suprême, il y a personne qui peut avoir des droits sur lui. Et bien, en fait, dans sa tradition, il nous est dit que si effectivement nous assumions, si les êtres humains assument leur devoir vis-à-vis du droit d'Allah, eh bien, le droit que nous avons sur lui, c'est quoi? C'est que Dieu nous fasse entrer au paradis. Et dans le Coran, en fait, il y a une corrélation intrinsèque entre le paradis et la rahma. Si vous voulez, c'est comme si qu'il définissait ou il donnait un autre nom au paradis que le mot Jannah. D'ailleurs, il en donne d'autres. Mais parmi les noms qu'il donne au mot, au Jannah, au concept Jannah, c'est-à-dire au concept de paradis, c'est Rahma, tout simplement. Donc, le droit des êtres humains sur Allah, c'est que Allah nous embrasse de sa Rahma lorsqu'effectivement, nous avons été dans ce monde, dans une forme d'adoration exclusive, pure, immaculée, de lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette notion, elle est très importante parce que c'est ce qui va nous permettre de garder de l'espoir quant à notre devenir dans l'au-delà. C'est-à-dire que il est important que notre sortie de ce monde soit marquée majoritairement par l'espoir plutôt que la crainte. Attention, la crainte et l'espoir sont de rigueur et sont de mise dans ce monde. Ce sont, comme certains le disent, les deux ailes de l'oiseau qui cheminent. L'oiseau ne peut pas cheminer sans une aile. Donc crainte et espoir, nous devons toujours dans ce monde être entre crainte et espoir. Par contre, ces mêmes érudits nous disent que Notre fin de vie doit être plus marquée par l'espoir que par la crainte. Parce que c'est cet espoir qui va nous donner la motivation suffisante pour multiplier les actes finalement, bah, on va encore le dire une nouvelle fois, les actes de Rahma, puisque Allah nous dit la chose suivante dans une, enfin, le prophète Mohammed sallam, plutôt nous dit la chose suivante dans une tradition aussi, qui est attribuée à la Kulihal, Irhamu man fil ard, donc faites acte de Rahma vis-à-vis des gens qui sont sur terre, vis-à-vis, non, de la créature, que dis-je, de toute chose qui se trouve sur terre, Yarhamukum man fis sama. Vous pourrez alors être touché d'une Rahma supplémentaire de la part du ciel. Donc, cette notion de droit, ou bien de droit des êtres humains sur Dieu, ou bien du devoir, du seul d'ailleurs, c'est le seul devoir que Dieu s'est imposé à lui-même. Vous ne trouvez pas autre chose, en fait, dans le Coran, avec la même formule, hein, Kataba ala nafsihi ar-Rahma, si vous voulez, cette formule, c'est la même formule qu'on retrouve dans les versets qui parlent du jeûne du mois de Ramadan, hein, Kataba, hein, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. C'est la même formulation. Vous a été prescrit le siyam. Donc là, il y a cette prescription, finalement, du devoir de Rahma qu'Allah s'est prescrit à lui-même. Et ça renvoie quand même une autre tradition prophétique dans laquelle il est dit que Allah s'est interdit l'injustice. C'est interdit d'injustice. Et ça renvoie à un autre, plutôt, à un autre verset du Coran où Allah dit Wa rahmati wasi'at kulla shay. C'est-à-dire, et ma rahma, donc mon amour principiel, majuscule, inconditionnel, embrasse toute chose. Donc parmi toutes les choses qu'il embrasse, c'est cette notion de droit et de devoir, notamment le devoir, le seul devoir qu'Allah s'est prescrit, et qui donc qui renvoie à cette notion de droit chez nous, et qui vraiment, lorsque cette notion est intégrée, lorsque cette notion est appropriée finalement par l'être humain, lorsqu'on arrive à s'approprier cette notion-là, on peut, comment je pourrais dire ça? On peut être dans une adoration qui va finir en apothéose. C'est-à-dire qui va finir par la meilleure note sur laquelle on peut finir. Qui va finir par, parce qu'on sait qu'on est ressuscité selon l'état dans lequel nous quittons ce monde. Et vraiment, cette notion va nous permettre justement de quitter ce monde sur une notion positive. Pourquoi? Sur une note positive, ça va être une note de Rahma, en tant qu'espoir, espoir ultime. Donc ça, c'est une notion qui est très, très importante. D'ailleurs, dans un des versets dans lequel ce devoir est mentionné, Allah le fait suivre par Man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi fa innahu ghafurur rahim. Comme note d'espoir pour nous, c'est-à-dire toute personne qui va commettre du sou. Alors le sou, pour faire très simple, c'est quoi? C'est tout acte qui n'est pas conforme à la volonté divine. Tout acte qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Prescrit pour tout cheminant spirituel dans le Coran. Il se peut que nous passions à côté de ce qui est conforme et que par maladresse, tout à l'heure on parlait de maladresse. Par maladresse, nous commettions des actions qui sont caractérisées par deux choses. As-su, c'est deux choses. La bassesse et puis la laideur. D'ailleurs, on a ça dans toutes les. Enfin, en tout cas, en langue française, on a ça dans les expressions. Ça, c'est un coup bas. Quand on dit de quelqu'un qui fait un coup bas, on n'est pas en train de faire l'éloge du coup qu'il nous fait. Et puis aussi, ça, quand on dit c'est laid, ça. C'est moche. Voilà. L'expression, c'est ça, c'est moche. Ouais. Donc, on a. Sous toute action qui est moche, donc finalement bah, qui est complètement en opposition contraire avec la figure de perfection, avec la beauté, et puis toute action qui est basse, c'est-à-dire qui n'est pas conforme. Allah nous dit ici, man amila minkum, si parmi vous il y a des personnes qui vont commettre de la bassesse et de la mocheté, alors on va le dire ça comme ça. Bijahalatin. Et ce mot, il est très important. Parce qu'en fait, ce qui va nous pousser, nous les êtres humains, à commettre ce type d'action, c'est le jahala. Alors souvent, le jahala, c'est traduit par l'ignorance. C'est pas faux. Sauf que si on revient là, dans l'étymologie, jahala, ça veut dire littéralement être vide de quelque chose. Effectivement, nous sommes amenés à poser de la bassesse lorsqu'on est vide de Dieu. Ça veut dire quoi, lorsqu'on est vide de Dieu? Lorsqu'on n'est pas en pleine conscience que Dieu nous voit, nous entend, comprend ce que l'on est en train de faire. Donc c'est ça le bijahalatin. C'est dans un moment d'insouciance, dans un moment d'inconscience, que ce qu'on est en train de faire, eh ben on le fait devant Dieu. Et qu'il est vu, visible, audible, entendable, compréhensible par Dieu. Attention, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ. Et celui qui va pouvoir se reprendre par la suite, parce qu'il va prendre conscience que, ok, ce que je viens de faire, c'est bas et c'est moche. Et surtout, je viens de le faire devant Dieu. Donc il va avoir une espèce de culpabilité, de honte, d'une certaine manière. Bah, bien évidemment, une culpabilité, une honte qui va avoir une fonction positive. C'est quoi? La fonction positive, c'est d'arrêter de poser de la bassesse, d'arrêter de poser de l'acte qu'on pourrait appeler un acte d'aversion, un acte qui est laid. Et ensuite, on va réparer. Wa aslaha, c'est vraiment restaurer ce qui est restaurable. Réparer ce qui est réparable. Fa innahu ghafurun rahim. Alors à ce moment-là, effectivement, Allah va pouvoir à nouveau, d'une certaine manière, ou bien l'être humain, grâce à cette tauba et cette islah, donc grâce au fait d'avoir laissé tomber définitivement ce type d'action et d'avoir réparé les dommages commis, les dommages avérés, l'être humain va pouvoir à nouveau bénéficier de cet amour inconditionnel de Dieu, dans l'agir, dans l'acte divin. Donc ça, c'était ce que moi j'appelle le devoir de Rahma que Allah s'est prescrit à lui-même. Ensuite, Allah, lorsqu'il se donne à être connu de nous, lorsqu'il se décrit, en partant encore une fois de Ar-Rahman, de l'absolu rayonnant d'amour, il va mentionner ce que moi j'appelle les deux branches des noms divins. Dans la sourate Ar-Rahman, on a quand même une sourate qui est dédiée à ce nom. Le premier verset, c'est Ar-Rahman. Ensuite, du deuxième verset à l'avant-dernier verset, on va avoir comment Ar-Rahman se manifeste dans ce monde. La première manifestation, c'est Al-Lamal Qur'an, donc la notion du Coran. Ensuite, la deuxième manifestation de l'Ar-Rahman, quand même, on appréciera finalement la place que nous avons auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, c'est Khalaqal Insan. Avant le reste, hein, avant la création, avant le soleil, avant la lune, avant les étoiles, avant, bref, tout le reste de la création, avant même le paradis et l'enfer, on a la création de l'humain. Bref, tout ça pour vous dire qu'à partir du deuxième verset jusqu'à l'avant-dernier verset, on a d'une certaine manière une définition de quoi? De toutes les modalités avec lesquelles Ar-Rahman va pouvoir se manifester à nous. Donc, se donner à être connu de nous. Et enfin, on va clôturer la sourate par Tabarakasmurabbika dhil-jalali wal-ikram. Et c'est vraiment ce verset-là qui va introduire, je dirais, ce que moi j'appelle les deux grandes branches de la Rahma. La branche de Jalal et la branche de Al-Ikram. Alors, le Jalal, en langue arabe, ça renvoie à quelque chose d'éminemment important. C'est une présence majestueuse, c'est-à-dire qui en impose, et puis qui va couvrir, qui va embrasser, dans l'objectif de quoi? De protéger. De tout danger, de toute chose qui pourrait nous détruire, nous anéantir, nous terrasser, nous altérer, nous dégrader. Al-Jalal, c'est vraiment ça. Une présence majestueuse, protectrice et conservatrice, et je dirais garante de notre intégrité contre tout danger extérieur. Ça, c'est le Jalal. Et dans cette branche-là, on va retrouver un certain nombre de noms divins. On va retrouver At-Tawwab. On va retrouver Al-Ghafour, on va retrouver Al-Afou, c'est-à-dire tous les noms divins qui renvoient à cette notion de quoi? De protection. Tout à l'heure, je disais que l'utérus, lorsqu'il se dilate, il va être un refuge pour le fœtus. Donc la première fonction de ce refuge, c'est bien évidemment de protéger le fœtus. Et ça renvoie à la notion de quoi? De Jalal. Donc ce refuge, finalement, protecteur. Al-Ikram, c'est une autre racine. C'est la racine Karama. Et dans cette racine-là, on a des symboles qui sont très intéressants. Le premier symbole qui va être intéressant pour nous, c'est quoi? C'est le raisin. C'est-à-dire les Arabes du mot coranique utilisent la racine karama pour parler du raisin. Lorsqu'on s'intéresse finalement, allez, à deux caractéristiques importantes du raisin, on va trouver deux choses qui vont renvoyer à cette notion de karama. La première, c'est que le raisin, il est chargé en sucre. Il faut savoir que le sucre, c'est le carburant du moteur qui met en mouvement le corps. Être totalement vivant, pour nous les êtres humains, ça veut dire quoi? Être en mouvement. Comment on fait, nous les êtres humains, pour être en mouvement? Il faut qu'on ait du carburant. Le carburant majeur, c'est le glucose. Le raisin est gorgé de glucose. Ensuite, on a une deuxième caractéristique du raisin. C'est que le raisin, c'est un antioxydant majeur. Alors, c'est quoi un antioxydant? C'est l'antioxydant va nous prémunir de quoi? De tout ce qui peut nous affaiblir, ce qui va affaiblir nos os, ce qui va affaiblir nos cellules, ce qui va affaiblir, bref, tout ce qui nous permet de nous tenir debout à l'œuvre, nous les êtres humains, et qui nous permet de nous mettre en mouvement. Donc, si on reprend juste ces deux aspects-là et qu'on essaie de voir, bah finalement, c'est quoi comme concept qui ressort de ces deux notions-là? C'est vraiment le concept du quoi? Du renforcement. Donc le premier sens de karama, c'est rendre plus fort. Ouais, par la positive et par la négative. Rendre plus fort par, je dirais, l'énergie, et rendre plus fort parce qu'on est prémuni de tout ce qui pourrait nous affaiblir. Notamment renforcer le système immunitaire. Quand le système immunitaire est faible, on va être affaibli par beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Par contre, lorsque le système immunitaire est fort, eh ben on va rester fort et on va se renforcer. Premier élément, le renforcement. Le deuxième élément qu'on a dans la racine karama, c'est quoi? C'est la notion d'abondance. La notion d'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire une quantité, mais attention, qui ne soit pas matérielle seulement. C'est une quantité qualitative, hein, parce que sinon on va tomber dans le règne de la quantité et il n'est pas question de cela ici. Ici, quand on parle d'abondance, on parle d'une quantité dont les causes ne sont pas rationnelles. C'est ce que j'appelle, moi, la quantité qualitative. Donc, en grande quantité. Et puis, la troisième notion qu'on a dans cette racine karama, c'est la notion de noblesse. Et la noblesse, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au degré d'élévation, au degré de hauteur, au degré, je dirais, de réalisation de l'être, vous savez, sur ce chemin de retour jusqu'à Allah. Petite parenthèse, le symbole et la métaphore qui est donnée dans le Coran, c'est la métaphore de l'échelle. En réalité, notre chemin, il n'est pas horizontal, notre chemin de retour jusqu'à Allah. Il est vertical. D'ailleurs, c'est un des sens que l'on a dans le verbe raja'a. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Et c'est jusqu'à lui. Le ila en langue arabe, ça ne veut pas dire vers lui, non. Le ila, ça veut dire jusqu'à lui que quoi? Que nous retournons. Et bien, le verbe utilisé en langue arabe pour parler de ce retournement jusqu'à Allah, c'est le verbe raja'a. Et si on utilise ce que certains appellent le cousinage sémantique. Alors, cousinage sémantique, c'est d'essayer de voir cette racine raja'a, d'où vient le mot raji'un, qui veut dire se retourner jusqu'à lui. Cette racine-là est cousine d'une autre racine dans laquelle on va trouver les trois mêmes lettres, mais pas dans un ordre différent. C'est la racine araja, qui renvoie au mi'raj, à l'ascension. Tout ça pour vous dire que ce chemin de retour, en fait, il n'est pas horizontal, il est ascensionnel, il est vertical. Et c'est d'où l'intérêt, ou d'où la, je dirais, la beauté de la métaphore proposée dans le Coran pour ce chemin de retour jusqu'à lui, qui est la métaphore de l'échelle. Et en fait, pour comprendre cette notion de noblesse, eh ben on va s'appuyer sur cette échelle, justement. La noblesse, ça renvoie à tous les degrés d'élévation que l'on peut atteindre au fur et à mesure de notre avancée dans notre cheminement spirituel, dans ce chemin de retour jusqu'à Allah. Donc, al-ikram, littéralement, ça veut dire quoi? C'est tous les noms d'Allah qui vont participer à notre renforcement, nous rendre plus forts. Et j'allais dire, c'est marrant, oui, d'une certaine manière. Dans cette branche-là, on a les noms divins en abondance. C'est-à-dire, majoritairement les noms divins sont dans cette branche de quoi? Du renforcement. Donc on a une abondance de noms divins dans cette branche-là. Et puis troisièmement, en fait, tous ces noms, en fait, ils vont participer à quoi? À notre anoblissement. C'est ces noms qui vont nous permettre de nous élever sur cette échelle jusqu'à revenir à lui accompli de façon parachevée, c'est-à-dire en ayant atteint les plus hauts degrés de la noblesse. Et dans ces noms, dans cette branche-là, nous avons les noms divins de Al-Aziz, Al-Hamid, Al-Wali, Al-Jabbar, etc. Et je m'arrêterai peut-être aller sur trois noms pour essayer d'illustrer le propos. Et comme ça, on va essayer de voir hein, le renforcement, comment il peut se modéliser et se manifester. Le premier nom sur lequel j'ai envie de m'arrêter, finalement, ça serait Al-Aziz. Al-Aziz, souvent, c'est traduit par le puissant. Alors, je sais que Maurice Guéton, paix à son âme, le traduisait par. Ça dépend, des fois par l'inaccessible. Et il me semble que par moment, il faudrait vérifier, par l'irrésistible. Et quant à moi, je vais plutôt choisir l'irrésistible et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans le sens étymologique de la racine azaza, d'où vient le mot al-aziz, on a cette notion de quoi? De solidité d'une chose. Les arabes coraniques vont l'utiliser initialement, par exemple, pour parler d'une pierre qui est solide, que l'on ne peut pas briser ou qui est pratiquement imbrisable, impénétrable, de la roche impénétrable. Et on sait que la solidité d'un matériau dépend de quoi? De la force des éléments qui le composent. Plus les éléments qui le composent ont un lien qui est fort, plus la chose va devenir solide. Donc, Al-Aziz, en réalité, c'est l'absolu solide dont la solidité est la conséquence et l'implication d'une force intrinsèque, d'une force essentielle. Et la chose est tellement forte qu'effectivement, il n'y a rien qui peut lui résister. Et c'est ça, cette notion d'irrésistible. Parce que l'irrésistibilité, c'est la capacité d'un matériau à pouvoir résister à une force opposée, contraire, qui, je dirais, qui s'abattrait sur lui. Et en fonction de sa capacité à résister, on va établir un taux de résistibilité. Et bien, Allah, en tant que Al-Aziz, il est tellement fort que rien ne peut lui résister. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier nom d'Allah qui est mis en corrélation avec Al-Aziz dans le Coran, c'est quoi? Al-Aziz ur-Rahim. C'est-à-dire que cette force procède de son amour. Dit autrement, il n'y a aucun être humain, que dis-je, il n'y a aucune créature, peu importe sa nature, qui peut résister à quoi? À l'amour inconditionnel de Dieu, à l'amour inconditionnel d'Allah. Eh bien, lorsqu'on est connecté à Al-Aziz, il n'y a rien aussi qui va pouvoir nous résister. Parce que nous, les êtres humains, notre mission sur Terre, c'est de le manifester, subhanahu wa ta'ala. C'est, d'une certaine manière, d'incarner ses noms. Attention, on n'incarne pas Dieu, mais on incarne ses noms. Parce qu'il y a dans les noms des fonctions divines. Et en fonction des fonctions de chacun, des uns et des autres, en fonction des missions qui sont les nôtres, il y a certaines missions qui vont nécessiter quoi? Que nous devenions, par la grâce de Dieu, et en incarnant ce nom, nous-mêmes irrésistibles. Donc, être accompagné, être habité d'une certaine manière de l'irrésistible va nous rendre nous irrésistibles pour le monde, notamment par rapport aux missions qui sont les nôtres. Et on l'a vu d'une manière, mais juste magnifique et majestueuse, dans l'histoire même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète lui-même est qualifié de Aziz dans le Coran. Et effectivement, il y a eu une tentative de résistance au départ, parmi les grands de la Mecque. Mais tous ont fini par quoi? Par embrasser l'islam. Parce qu'en fait, ils ont vu, de la part du prophète, un amour, comment je pourrais dire ça? Sidérant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose qui est une exception dans toute l'histoire humaine. Après plus de 20 ans, après l'avènement de l'islam, après qu'il ait reçu le premier verset, après qu'il ait reçu Iqra, il revient à la Mecque, dans le monde des hommes, il revient à la Mecque en tant que conquérant. Sauf qu'on sait dans certaines traditions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, ça y est, la Mecque était prise de toutes parts, il est entré à la Mecque en état de soujoud sur sa chamelle, c'est-à-dire dans une forme d'humilité qui fait une exception à l'histoire humaine. Tous les conquérants rentrent dans l'endroit conquis, la tête haute sur sa monture. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ici preuve d'une humilité déconcertante. C'est cette humilité en réalité qui l'a rendu. Qui a fait en sorte que Allah a élevé son nom au-delà de toute créature. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que le prophète, en tous les cas, dans ce qui nous est rapporté de ses propos, c'est que il pose la question aux Mécois qui n'avaient pas encore embrassé l'islam. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire de vous? Eh bien, les Mécois, dans la réponse qu'ils vont utiliser, vous savez, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser que on ne connaît pas de toi autre chose que le karam. Le fait que le prophète Sassam est caractérisé par le karim, et bien évidemment, al-karim qui procède de quoi? De sa rahma. Donc, même à ce moment-là, où le prophète aurait pu adopter une toute autre position, il dit, idhabu fa antum at-tulaqa. Vous êtes libre de rembrasser ou de ne pas embrasser l'islam. C'est vous qui décidez. Et là, excusez-moi du peu, c'est un amour, c'est un geste d'amour, mais enfin, vraiment déroutant d'un point de vue intellectuel. Et cet amour-là, en fait, il procède aussi de quoi? De l'aziziya. C'est-à-dire, même ses plus grands adversaires, même ceux qui ont tenté finalement de mettre fin à l'islam en tentant de le tuer, eh ben ils ont fini par quoi? Par craquer. C'est-à-dire que cet amour majuscule et inconditionnel a fini par quoi? Eux-mêmes les embrasser et être emportés, embarqués dans cette épopée de l'islam. Donc ça, c'est un nom qui est très très fort, l'Aziz. Et effectivement, nous pouvons nous aussi être sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devenir d'une certaine manière irrésistible dans nos projets, parce que nos projets, ben, ils vont rencontrer de l'adversité. Ils vont rencontrer aussi une résistance. Comment on fait pour dépasser l'adversité et comment finalement pour faire craquer cette résistance? Encore une fois, et toujours par cette notion de karam qui elle-même prend son origine dans cette notion d'amour inconditionnel. Le deuxième nom divin, sur lequel je vais m'arrêter, qui participe du renforcement, c'est Al-Wali. Allah, il se présente en tant que Al-Wali. Et Al-Wali, si on revient vraiment à son sens le plus étymologique et puis aussi coranique, c'est vraiment le soutien indéfectible. Notamment quand l'être humain se retrouve dans des situations de wail. C'est quoi se retrouver pour nous, les êtres humains, dans des situations de wail? C'est se retrouver dans des situations infernales. C'est tellement contractant qu'on a l'impression de vivre un enfer. Et bien, c'est à ce moment-là que l'on peut, d'une certaine manière, solliciter, implorer l'intervention de Allah en tant que le wali, parce que c'est à ce moment-là, en général, ou quoi? Si on tourne le dos, on ne voit plus personne. Donc, finalement, c'est quand on se retrouve esseulé dans des situations infernales que Allah, en tant que wali, en tant que soutien indéfectible, va pouvoir manifester ce quoi? Ce renforcement dont on a besoin. Parce que quand on se retrouve esseulé dans des situations infernales, on a envie de craquer. On n'en peut plus. Il se peut qu'on ait à deux doigts d'être quoi? Terrassé et anéanti. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de quoi? D'un renforcement divin qui vient de nulle part en réalité et qui va nous permettre de quoi? De rester debout face à l'adversité et de pouvoir, grâce au wali, dépasser sa diversité. Donc là, encore une fois, on a bien, je dirais, l'intervention de Allah en tant que Karim, Jalali wal ikram, dans le renforcement. Et encore une fois, les situations dans lesquelles on se retrouve et qui peuvent être infernales ne sont que la résultante de nos propres actions. Ma asabakum min hasanatin famin Allah. Wa ma asabakum min sayyatin famin nafsik. Allah nous dit, tout ce qui nous touche comme hasana, comme beau et comme bon, ça vient de Dieu. Et tout ce qui nous touche et qui est resserrant, qui est difficile pour nous, et qui justement nous met dans une forme de bassesse, hein, c'est ça, l'enfer, il est bas, hein, il n'est pas haut l'enfer. Lorsqu'on se retrouve dans le creux de la vague, dans des situations infernales, ça vient de notre propre chef. Ce n'est que la conséquence de notre propre agissement. Et là, Allah intervient en tant que wali, qui procède de cette branche de l'ikram qui elle-même prend ses origines dans l'amour inconditionnel. Oui, c'est que de l'amour inconditionnel. Parce que si on regardait les conditions, l'être humain, dans cette situation-là, il ne se retrouve pas dans les conditions favorables, dans une perspective bien évidemment humaine, d'être touché par de l'amour. Mais Allah nous aime tellement de façon inconditionnelle que c'est justement dans ces situations-là qu'il va être lui, subhanahu wa ta'ala, ce soutien indéfectible et nous renforcer, nous rendre plus forts pour qu'on puisse dépasser l'épreuve et la situation infernale. Et puis le troisième nom divin, allez, sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est Al-Hamid. Al-Hamid, alors souvent c'est traduit par celui qui est digne d'être loué, le digne de louange. Et j'ai envie de vous proposer une autre lecture, à la kouli hal, qui prend, je dirais, qui prend son origine dans l'étymologie de la racine Hamada, d'où vient le mot Hamid. Chez les Arabes coraniques, on va utiliser cette racine-là pour parler de ce que j'appelle la puissance. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est l'aptitude, le potentiel, la capacité à faire quelque chose. Je vais le dire différemment. Alhamd, chez les Arabes coraniques, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir qu'une chose possède à quoi? À faire quelque chose. Un pouvoir à produire des effets. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Arabes coraniques vont l'utiliser lorsqu'ils vont parler d'une nourriture, par exemple, qui n'est pas rassasiante. Ils vont dire de cette nourriture qui n'est pas rassasiante que Laysa fihi mahmida. Cette nourriture, elle n'a pas de mahmida. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nourriture n'a pas de mahmida? Cette nourriture, elle n'est pas en capacité, elle n'a pas le potentiel de quoi? De produire l'effet escompté par la nourriture. L'effet escompté par la nourriture, c'est quand même de quoi? De se sentir rassasié, d'avoir comblé les besoins, on va dire, primaires en termes de nourriture. Donc, Alhamd, ça renvoie vraiment à ça. Alors, bien évidemment, il faut faire le lien. C'est quoi le lien avec la louange? C'est quoi le lien entre la puissance, dans le sens de potentiel, capacité, aptitude, pouvoir d'action, et puis la louange? Bah, quand est-ce qu'on est amené à louer quelqu'un? Parce qu'on voit en lui un pouvoir d'agir juste déconcertant. Donc, les deux sont liés. Les deux significations sont liées, sauf qu'il y en a une des deux significations, excusez-moi, une des deux significations qui est l'implication et la conséquence de l'autre. Donc j'aime à dire que Al-Hamid, c'est le Tout-Puissant qui va susciter la louange. Quand on prend conscience de la puissance divine, on ne peut pas faire autrement que de dire que Allah, il est grand, il est puissant, il est fort, il est majestueux, il est qawi. Il est d'une solidité déconcertante. Il est irrésistible. Donc, Al-Hamid, c'est le Tout-Puissant qui va susciter la louange. Si on comprend que la Toute-Puissance, c'est un potentiel, Al-Hamid, ça veut dire aussi celui qui quoi? Qui nous rend puissants. C'est-à-dire, c'est celui qui va nous mettre en capacité de, celui qui va nous donner les attitudes, celui qui va nous octroyer ce pouvoir d'agissement dans le monde. Raison pour laquelle, à titre personnel, le prénom Ahmed, qui est le prénom a été du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le deuxième prénom, si vous voulez, moi je le traduis par le Tout-Puissant. Parce que il y a une spécificité encore une fois prophétique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui a actualisé tout le potentiel humain. Raison pour laquelle certains ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était Al-Insan Al-Kamil, l'être humain complet. Qu'est-ce qui fait que c'est l'être humain complet ou parfait, conformément à ce qui est humainement possible en termes de perfection? C'est parce qu'il est le seul à avoir vraiment déployé tout son potentiel. Et en réalité, déployer tout son potentiel, c'est quoi? C'est incarner tous les noms propres fonctions d'Allah. C'est qu'à cette condition qu'on arrive à être tout-puissant. Et effectivement, Ahmad, ça veut dire le tout-puissant. Le tout-puissant qui va susciter toutes nos louanges, parce qu'on va se poser la question, mais est-ce qu'il est resté vraiment que de nature humaine, cet homme? Oui, il est resté de nature humaine. In ana illa bashar. D'ailleurs, dans le Coran, lui, enfin, Allah dit de lui-même, enfin, fait dire au prophète de lui-même qu'il est qu'un bashar, qu'un être fait de chair et d'os. Mais c'est un bashar quand même tout à fait singulier, éminent et exceptionnel. C'est le seul à avoir manifesté toute la puissance divine qui est en lui. Donc, Al-Hamid, c'est ça que ça veut dire. Encore une fois, vous voyez, on voit à le renforcement. Tout à l'heure, j'ai dit être fort, c'est être en capacité de se mettre en mouvement. Donc, Al-Hamid, c'est celui qui va nous mettre en aptitude. Et puis, de façon bien évidemment, hein, très aboutie. Comme Ar-Rahim, il y a cette notion de d'aboutissement dans l'agissement humain. Donc ça, c'était des noms, vous voyez, qui procèdent de quoi? Du renforcement, qui procède de l'ikram, qui elle-même est une manifestation de l'amour majuscule et inconditionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais donner maintenant des exemples pour la première branche de Jalal. J'ai dit, c'est une présence majestueuse de Dieu qui va nous protéger, nous conserver et se porter garant de notre intégrité. Je vais prendre un seul exemple, c'est Al-Ghafour. Al-Ghafour, en langue arabe, alors souvent c'est traduit par le très pardonneur. Si on revient à l'étymologie de ce nom, la racine rafara veut dire couvrir. Et dans cette couverture, il y a deux objectifs et deux finalités. La première, c'est quoi? C'est protéger de quelque chose qui peut être dangereux. Rafara, ça veut dire couvrir pour protéger de quelque chose qui peut être dangereux et terrassant et anéantissant. La deuxième finalité, c'est restaurer la beauté originelle, restaurer la pureté originelle. Donc, Al-Ghafour, maintenant, si on voulait proposer une autre traduction qui prenne en considération l'étymologie et puis surtout les occurrences coraniques, c'est-à-dire de quelle manière Allah utilise Al-Ghafour dans le Coran pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le sens de l'Al-Ghafour. C'est celui qui, par sa présence, va nous couvrir afin de nous permettre de quoi? D'être protégé, préservé, prémuni de ce qu'on appelle Al-Dhanb. Al-Dhanb, dans le Coran et en langue arabe, ça ne veut pas dire le péché. Al-Dhanb, ça veut dire la conséquence négative d'une action donnée. Et action donnée, c'est très précise. C'est-à-dire de n'importe quelle action. Si vous voulez, toutes les actions que nous, les êtres humains, on peut poser, on peut faire, ont toutes des conséquences. Toutes. Et chaque action peut avoir des conséquences négatives, comme elle peut avoir des conséquences positives. Et ce qui est fou, c'est que même une action qui pourtant est conforme à la loi de Dieu, et qui est belle, qui est conforme, qui est bonne, etc., elle peut avoir aussi des conséquences négatives. Et nous, les êtres humains, nous devons nous prémunir de ces conséquences négatives possibles. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Allah, il attribue au prophète Mohammed sallam dans le Coran la notion de dhanb. Donc, si on traduisait le dhanb par péché, ça serait problématique. Pourquoi? Ça viendrait briser l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait que le prophète soit infaillible, c'est-à-dire que le prophète ne peut pas tomber dans le péché. Alors que Dieu, il dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Donc ici dans le verset, ça parle dhanbika, le dhanb du prophète. Donc si on traduit par péché, c'est un problème. Par contre, si on traduit par conséquence négative du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assumé totalement sa fonction, là ça fait sens parce qu'effectivement il y a eu des conséquences négatives sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait qu'il s'est quoi? Déjà qu'il s'est proclamé prophète à sa tribu. En faisant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quoi? D'une certaine manière, hein, non voulu, non consciente, non voulu, de façon complètement non intentionnelle. Mais il a provoqué la jalousie, par exemple, de Abi Lahab, de son oncle. Depuis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est proclamé prophète, Abu Jahl, Abou Lahab, excusez-moi. Abou Lahab n'a eu de cesse de quoi? De tenter de quoi? D'éradiquer le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une conséquence négative. Et Dieu sait qu'il a tout mis en œuvre pour faire mal au prophète, pour essayer d'atteindre le prophète d'un mal. C'est un exemple, par exemple, de conséquences négatives d'une action donnée. Donc, je reviens sur mes propos. Le rafour, c'est celui qui va nous couvrir de sa présence afin de nous prémunir de toutes les conséquences négatives de nos actions, tout simplement. Pas forcément que les mauvaises. Même les bonnes peuvent avoir des conséquences négatives. Parce qu'elles peuvent provoquer, entre autres, de la jalousie. Et puis, ça va surtout nous permettre de quoi? De restaurer notre beauté et notre pureté originelle. Lorsque nous sortons dans ce monde, hein, dans cette grande matrice qu'est le monde, on sort pur. L'enfant, en fait, il est pur de toute bassesse et puis de toute action qui est moche, qui est vile, qui est laide. Et au fur et à mesure de notre avancement dans notre vie, il se peut que par moments, nous commettions des actions qui sont basses, qui sont viles, qui sont laides, qui sont moches. Et bien ces actions, cette bassesse et cette mocheté, cette laideur, vont impacter notre cœur. D'une certaine manière, vont souiller notre cœur. Et donc quand on sollicite, quand on implore Al-Ghafour, on implore le fait que sa présence puisse quoi? Puisse purifier notre cœur de toutes les souillures qui sont la conséquence, encore une fois, de notre agissement qui peut être par moments bas et vil. Donc c'est ça Al-Ghafour. Al-Ghafour, donc on est bien dans la branche de Jalal, puisque on a dit la branche de Jalal, c'est quoi? La présence majestueuse, embrassante de Dieu, qui va quoi? Qui va nous protéger de toute chose qui pourrait nous anéantir, nous détruire. Donc Allah, en tant que Ar-Rahman, et Ar-Rahman, c'est quoi? C'est Dhul-Jalali wal-Ikram. Donc finalement, tous les noms d'Allah, tous les noms d'Ar-Rahman, sont soit dans la branche de Jalal, soit dans la branche de l'Ikram. Tous, sans exception. À nous maintenant d'identifier qu'est-ce qui relève du Jalal, qu'est-ce qui relève du Ikram. Et j'ai donné quelques illustrations pour qu'on puisse se faire une idée.